Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussaou.
Clôture ce jeudi à Kinshasa de la DRC Africa Business Forum. Hier à l'ouverture, le Premier ministre avait annoncé la création du Conseil des batteries RDC et la signature de l'acte d'engagement entre le Premier ministre et les partenaires en faveur de l'industrie des batteries électriques. Une maladie inconnue a déjà tué 300 enfants et touché près de 10 000 autres dans la province du Kwilu. Le point de la situation avec le ministre de la Santé. Donc, une structure des jeunes de la RDC réclame une loi sur les allocations et indemnités de chômage. Baudouin Parani Moroula, un des initiateurs de cette proposition de loi, est notre invité ce midi. Bonjour à tous. La DRC Africa Business Forum s'est clôturée ce jeudi à Kinshasa. À l'issue de la journée d'hier, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a fait trois grandes annonces. Il s'agit de la création du Conseil des batteries RDC, de la mise en place du plan financier et enfin de la signature de l'acte d'engagement entre le Premier ministre et les partenaires en faveur de l'industrie des batteries électriques. Entre-temps, toujours ce même jeudi, s'ouvrent les travaux de la conférence sur la masculinité positive qui connaîtra la participation des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. C'est ce jeudi également, 25 novembre, que vont être lancés les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Radio Kapi vous propose à partir d'aujourd'hui une série de reportages à ces sujets. Le gouvernement congolais, à travers son ministère du genre, famille et enfants, s'est approprié l'événement en partenariat avec ONU Femmes, l'agence onusienne mise en place depuis juillet 2010 pour promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Alors, quel est l'intérêt de ces 16 jours d'activisme, particulièrement en RDC? Tentative de réponse avec Honoré Missenga.
L'événement débute ce 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se poursuivra jusqu'au 10 décembre, date de la Journée des droits humains. Au niveau international, il est placé sous le thème « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Tandis qu'au niveau national, la RDC célèbre l'événement sous le thème « Je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles ». L'enjeu de ces journées en RDC, la représentante de l'ONU Femmes dans ce pays, Madame Awa Ndiaye Sek, l'a souligné le 17 novembre dernier, c'est démobiliser les autorités congolaises, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement et les humanitaires pour attirer leur attention sur ce fléau. Étant entendu, comme l'a encore rappelé Madame Awa, qu'en RD Congo, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, les femmes et les filles subissent encore des violences et des discriminations multiples. En plus de l'ONU Femmes, la MONUSCO avec sa chef, la représentante spéciale Madame Bintou Keïta et plusieurs autres agences du système onusien en RDC vont s'impliquer pendant les 16 jours d'activisme par plusieurs manifestations à Kinshasa et dans les provinces.
Demain, vous suivrez un autre aspect dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Dans la province du Kwilu, la maladie encore inconnue qui ravage les enfants de moins de 10 ans dans les territoires de Gungu continue à faire des victimes. À l'heure actuelle, l'on compte déjà plus de 10 000 cas parmi lesquels plus de 300 décès en 3 mois. Le ministre provincial de la Santé du Kwilu, Bena Mutui, qui a donné ses statistiques hier mercredi, indique qu'actuellement la riposte commence à dépasser la province car la situation est devenue complexe vu l'augmentation des cas. Selon lui, dans 2 semaines, il y aura rupture des stocks de médicaments malgré l'appui de certains partenaires. Docteur Bena Mutui appelle à l'intervention du gouvernement central pour mener une lutte efficace. Le point avec Irène Boma.
C'est depuis la fin du mois d'août dernier que cette maladie ayant des signes cliniques semblables à celle du paludisme a commencé à sévir dans les territoires de Gungu, précisément dans la zone de santé de Mukedji puis de Gungu. Les personnes les plus touchées restent les enfants de moins de 10 ans et les 8000 des cas à ce jour est de 10 418 dont 343 décès, a fait savoir le ministre provincial de la santé du Kwilu. Docteur Bena Mutui, qui parle de la riposte et des difficultés irrelatives, sollicite l'intervention intervention du gouvernement central.
La réponse que nous avons mise en place, les traitements sont gratuits, les malades viennent nombreux, mais nous avons quelques difficultés. Les problèmes des aides de plus en plus complexes, la capacité de riposte commence à nous dépasser. C'est quoi, il y a 100 rues qui a provisionné un médicament et un train-train. L'UNICEF avait aussi appuyé en médicaments, mais avec l'afflux des malades, la quantité des médicaments restés dans les deux zones de santé va peut-être couvrir deux semaines. Après deux semaines, on sera en difficulté. Ça demande beaucoup de moyens. C'est comme ça que nous sollicitons l'appui du gouvernement national et de tous les partenaires pour qu'ils luttent ensemble.
Notez que pour le ministre Benamoutoui, la grève des professionnels de santé, dont les infirmiers, reste aussi l'une des difficultés rencontrées dans cette lutte. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans les territoires de Beni, 12 aires de santé sur les 26 que compte la zone de santé de Oicha sont non opérationnelles. Pour cause, l'insécurité grandissante dans la région avec le déplacement massif des populations et la destruction des structures sanitaires. Les organisations de droits de l'homme dans la région pour qui les zones inviolables sont envahies demandent à l'armée d'imposer la paix dans la région en neutralisant tous les groupes armés locaux et étrangers encore actifs dans les territoires de Beni. Marc Marofimbo pour Le Point.
À en croire les centres pour la promotion des droits humains, seuls 8 aires de santé fonctionnent correctement. 6 aires de santé seraient en train d'être fermées et 12 ne fonctionnent plus. L'organisation note que plusieurs structures sanitaires dans la zone de santé d'Oicha ont été saccagées, pillées et incendiées par des hommes armés, notamment les rebelles EDF, qui attaqueraient régulièrement ces centres de santé pour se ravitailler en médicaments. Une importante partie du personnel soignant aurait aussi quitté cette partie du territoire de Beni. Toujours selon le CPDH, certains soignants auraient été kidnappés par les groupes armés qui opèrent dans la zone. Cette absence de structures sanitaires a des conséquences sur la vie de la population restée sur place. Une grande partie de la population n'arrive pas à se faire soigner correctement. Les centres pour la promotion des droits humains demandent à l'armée d'imposer la paix et la sécurité dans la zone de santé rurale de Oicha pour permettre au personnel soignant de regagner la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Kasaï, une délégation de l'Office congolais de contrôle, OCC, partie de Kinshasa, a procédé au prélèvement d'un échantillonnage de sédiments des eaux et des poissons capturés dans les rivières Chikapa et Kasaï, ce 3 mois après la pollution des eaux de ces rivières. Au terme de leur mission d'inspection, Boris Unyumbe, qui conduisait cette équipe, a expliqué que les deux sources d'eau jouent un triple rôle essentiel sur le plan social, économique et écologique. Selon lui, les laboratoires de l'OCC Kinshasa doivent procéder aux analyses et fixer l'opinion si ces eaux peuvent être utilisées pour des raisons domestiques ou si les poissons de ces deux rivières peuvent être consommés ou pas. Boris Unyumbe l'a dit à François Kadima.
Vous savez que lorsque vous avez un drame écologique, on prend les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et même écotoxicologiques pendant les drames. Mais c'est aussi important de venir 3 mois, 4 mois, 5 mois après, surtout qu'il y a interdiction de consommer. Il fallait que nous puissions venir 3 mois après, un peu plus tard que ça, pour que nous puissions voir l'état physico-chimique des eaux et même des poissons. Et c'est très important parce que la décision a été déjà d'interdire. Mais aujourd'hui, après 3 mois, quelle sera la position de l'autorité provinciale? Voilà l'importance même de notre mission, pour que nous puissions dire à l'autorité provinciale qu'après 3 mois, la pollution a disparu ou la pollution n'a pas encore disparu. Voilà l'importance de notre mission après 3 mois.
Retournons au Nord Kivu où la Force nationale syndicale FOSINAT, syndicat des enseignants, et la NAPECO, Association nationale des parents du Congo, demandent au gouverneur de province de rendre public l'arrêté fixant les frais scolaires pour les écoles secondaires à l'image des provinces de Kinshasa et du Sud Kivu. Cet outil va permettre à fixer les enseignants et les parents qui manifestent déjà leur inquiétude, ne connaissant pas leur sort sur les frais à payer. Sifamago.
Cette demande a été formulée au regard du retard constaté dans cette publication qui crée déjà un flou selon les syndicats des enseignants, d'autant plus que l'on se rapproche de la fin du premier trimestre, a déclaré Innocent Bahala Chamavu, président provincial du FOSINAT.
Nous appelons à notre gouverneur militaire de nous fixer sur le frais de scolarité. Et vous trouvez, les parents ne savent plus comment se positionner. Chaque école est en train de tâtonner. Il y a certaines écoles qui sont en train de demander de l'argent dans l'abstrait. Il y a des enseignants qui menacent de retourner en grève.
Cette inquiétude est aussi partagée par l'ANAPECO, qui dit craindre que certains gestionnaires des écoles commencent à spéculer en fixant de leur propre gré ces frais faute d'un document officiel. Malik Guilima, président de l'ANAPECO.
C'est pourquoi nous voulons faire ce lobbying auprès du gouverneur pour que le document puisse sortir à temps. Mais ça, c'est une inquiétude. Nous, parents, nous devons aussi s'y impliquer.
Le porte-parole du gouverneur de province indique que le pourparler sont en cours entre les autorités administratives, éducationnelles et les parents. Le général Sylvain Kengé précise que cet arrêté va sortir incessamment. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Tous les enfants, filles et garçons sans discrimination doivent aller à l'école dans le respect des mesures barrières. C'est dans ces sens que la division de la province éducationnelle Maniema 1 a procédé hier mercredi au lancement de la campagne de scolarisation des filles et garçons, activité lancée à Kindu par le ministre provincial de l'Éducation. Témoin de l'événement, Florence Kiza.
Cette campagne des mois vise à sensibiliser les parents et la communauté pour qu'ils envoient les enfants sans discrimination à l'école. Selon la Point Focal, le projet École primaire de qualité, une assistance en termes de dons est prévue à la sous-division de Kailo comme zone de convergence. Magui Foura.
Kailo, c'est une zone de convergence. Il y a des kits scolaires qu'on va distribuer aux nouveaux entrants, des enfants de première année. Il y a des petits sacs scolaires, tout ça, on va distribuer aux enfants. À Kindu, c'est juste la sensibilisation parce que vous allez voir même dans d'autres composantes, c'est Kailo comme zone de convergence et toutes les interventions à l'instant se focalisent là même à Kailo.
Pour l'assistant technique éducation et protection de UNICEF, l'appui de son organisation vise à garantir l'accès à l'apprentissage de qualité et inclusif, le respect et la promotion des droits de tous les enfants. Rémi Kibamba.
Dans l'optique d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants sans discrimination, l'UNICEF a bien voulu appuyer les PST Maniema en vue de lancer cette campagne d'inscription des enfants à l'école. En cette période où le monde entier est en alerte par rapport à cette pandémie à coronavirus.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au chapitre sécurité, en Ituri, des milliers de déplacés installés sur au moins 7 sites dans les territoires de Djougou vivent ces derniers jours dans une psychose totale. Cela fait suite aux menaces d'attaque de leurs sites par les éléments de la CODECO. Rappelons que ces derniers jours, il y a eu une recrudescence d'attaques de ces miliciens dans la zone. Selon la société civile de Djougou, cette psychose est observée depuis l'attaque survenue le dimanche dernier sur le site des déplacés de Drodro et dont le bilan était d'au moins 30 morts. La société civile demande aux FRDC de renforcer leur présence près des sites afin de dissuader les groupes armés. Martial Kizabiamungu.
Ces menaces d'attaque de sites de déplacés dans les territoires de Djougou sont prises au sérieux depuis l'incursion de la milice CODECO à Drodro le dimanche dernier. Les cibles probables des assaillants sont les sites de Djaïba, Ro, Boulé, Tché, Jina et Lopa. La société civile du territoire de Djougou indique que des messages en provenance des assaillants de la CODECO circulent dans les sites de déplacés pour annoncer leurs attaques dans les prochains jours.
Il y a les messages que les miliciens de CODECO envoient face dans les cas déplacés. Alors ça alerte les gens.
Certains déplacés salient cependant la présence des casques bleus de la MONUSCO à côté de certains sites. Mais ils plaident pour que les militaires de FRDC soient déployés en renfort. Dudo de Baimouka est le secrétaire du site de déplacés d'Euro.
Même la nuit, il y a eu une probable attaque de la part de CODECO. Il y a des menaces. Il faut que les autorités sécuritaires puissent renforcer la sécurité.
Les FRDC rassurent. Leur porte-parole à l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo demande par contre aux déplacés de rester vigilants et d'alerter les forces de sécurité sur tout mouvement suspect pour permettre aux FRDC d'intervenir rapidement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Aujourd'hui, 25 novembre, marque la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Violences de toutes sortes, conjugales, sexuelles, morales et financières. Si la vague MeToo n'a pas envahi l'Afrique, de plus en plus de mouvements féministes s'organisent pour défendre leurs droits. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple, où des organisations ont recensé plus de 2000 cas de violences ces deux dernières années pour la seule ville d'Abidjan, la moitié étant des viols. Et selon une ONG ivoirienne, plus de 400 Abidjanaises ont été tuées par leurs conjoints en 2020. En France, au moins 27 migrants sont décédés hier mercredi dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Deux rescapés sont actuellement hospitalisés. Le ministre français de l'Intérieur a annoncé 4 arrestations, tandis que Boris Johnson convoque une réunion de crise de son gouvernement à Londres. Cet événement suscite une onde de choc à Paris et Londres.
L'invité.
Une structure des jeunes de la RDC réclame une loi sur les allocations et indemnités de chômage. Ils ont eux-mêmes initié une proposition de loi qu'ils ont déposée à la primature pour enrichissement avant de la faire examiner et adopter par l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi portant allocations et indemnités de chômage a fait l'objet de débats dans une conférence tenue à Bukavu en début de semaine. Baudouin Parani Mouroula, un des initiateurs de cette proposition de loi, explique que sa démarche au micro d'Emmanuel Elamejua Kabedi.
Monsieur Baudouin Parani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez tenu une conférence sur la proposition de loi portant allocation et indemnité de chômage en RDC. Comment vous en êtes arrivé là d'abord? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Oui, évidemment, la jeunesse de la paroisse, c'est notre dame de la miséricorde. Ils nous ont consultés afin que nous puissions échanger avec le jeune de Timbunda sur cette proposition de loi portant allocation et indemnité de chômage dont je suis l'initiateur. Évidemment, nous sommes basés sur deux articles de notre constitution. Il y a l'article 58 qui parle de la redistribution des ressources du pays. Il y a aussi l'article 36 qui parle de la protection du peuple congolais contre le chômage. C'est ainsi que nous avons réfléchi sur comment est-ce que l'État peut envisager la redistribution équitable des ressources de notre pays à travers cette proposition de loi. Nous parlons ici des allocations et indemnités chômage. Pour les allocations chômage, nous visons les sans-emploi qui détient un titre académique. Et pour les indemnités chômage, nous visons ceux-là qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi par démission ou bien par licenciement.
Vous pensez que ces deux catégories sont faciles à identifier sur l'ensemble du pays?
Oui, c'est pourquoi dans notre proposition de loi, nous avons proposé à l'État qu'il puisse commencer par identifier le chômeur. Nous avons réfléchi sur la création d'un nouvel organe public. Dans notre proposition de loi, nous proposons à l'État qu'il puisse créer un nouvel organe public qui va aider, n'est-ce pas, l'Office national d'emploi dans l'identification de chômeurs dans l'esprit de cette proposition de loi que nous proposons à l'État.
Mais vous pensez seulement à deux catégories qui peuvent être traités comme chômeurs ici? Les diplômés de 6 ans qui n'ont pas du travail, qui ne peuvent pas continuer au niveau supérieur, ne sont pas aussi des chômeurs?
Cette question est très pertinente. Nous en avons même discuté pendant 2 mois avec l'équipe de nos camarades de lutte à travers la province. Vous savez, dans notre pays, nous sommes estimés le chômeur à peu près au-delà de 2 millions de chômeurs. Et ceux-là qui n'ont pas étudié et ceux-là qui ont étudié. Alors nous, nous sommes dit, au lieu de proposer à l'État une mer à boire, il fallait d'abord essayer un peu de commencer sur quelque chose. Parce que un texte, lorsqu'il est adopté, plus tard, ça peut être amendé. C'est ainsi que nous avons dit, c'est mieux de commencer par les chômeurs qui détiennent un titre académique dans un premier temps. C'est là, ça va aussi changer au fil du temps. Parce que il faudrait réfléchir dans le sens que lorsqu'on demande beaucoup, on risque de ne rien avoir. Mais aussi, l'esprit de cette proposition de loi est de pouvoir inciter le jeune de poursuivre les études universitaires.
C'est parce que on sait que généralement, l'université ne forme pas les demandeurs d'emploi, mais forme les chercheurs. Aujourd'hui, on est en train d'insister dans la communauté que les jeunes soient eux-mêmes créateurs d'emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi. Quelqu'un qui a fini et qui se débrouille dans l'informel, qui a installé sa petite entreprise quelque part, il se considère toujours comme chômeur ou celui-là, il ne l'est pas?
C'est un chômeur déguisé. C'est un chômeur déguisé. Vous savez, l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est un défi. Parce que vous ne pouvez jamais aller dans une banque ou bien à l'FPI, vous jeune qui vient de finir les études universitaires, vous détenez un projet et vous vous présentez à la banque pour demander un soutien, des crédits à votre projet. Jamais cette banque peut vous financer pour vous assister si vous n'avez pas de gages. Alors nous, nous avons réfléchi dans ce sens. Lorsque le jeune diplômé finit les études universitaires,
et que vous avez la possibilité de créer une activité lucrative, au lieu de tergiverser sur des banques à l'FPI, le peu de moyens à travers les allocations et indemnité chômage, ça va vous servir non seulement à pouvoir vous financer dans la recherche d'emploi, mais aussi ça va vous aider à vous financer certaines activités lucratives que vous pouvez initier. Alors, le peu de moyens que nous proposons dans cette proposition de loi qui contient 29 articles, ça va leur permettre évidemment de pouvoir se prendre en charge et aussi de s'intégrer dans la société. Notre dossier se trouve au cabinet du Premier ministre. Il est enregistré au numéro 23255 à la primature, au service courrier. Nous sommes sûrs qu'il va nous appeler et nous inviter afin que nous puissions approfondir cette question de la proposition de loi portant allocation et indemnité chômage.
Monsieur Baudouin Paragne-Morola, merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.